Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'écho local en direct tous les jeudis à midi sur Couleur FM et en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h et le dimanche à midi. Au sommaire aujourd'hui, nos invités de la semaine seront Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau de l'association Philo et Partage. Nous parlerons écologie avec Pierre Rabhi, l'un des pionniers de l'agriculture écologique en France, mais également de l'appel à idées et des projets de la Fondation France Tissage d'Initiative et du Salon 100% Logistique. Sans oublier nos petits reporters, le disque de la semaine, la chronique cinéma de Véronique Boulieu. Elle nous présentera les nouveautés de la semaine, des films à l'affiche au cinéma Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, des interviews, des chroniques, de la bonne musique. Et c'est parti pour l'écho local avec Estelle et Véronique.
Merci William, le réalisateur de notre émission. Bienvenue à vous, les Nord-Isérois, dans votre rendez-vous hebdomadaire afin de ne rien rater de l'actualité. Nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue dans ce nouveau numéro, le 20e déjà. Et bonjour Véronique.
Bonjour Estelle et bonjour William. Alors aujourd'hui, dans l'écho local, nous accueillons l'association Philo et Partage, située à Saint-Alban-de-Roche, avec Jean-Paul Beau, son président, et Jean-Pierre Moreau, son secrétaire. Une association qui permet aux gens d'échanger, de mettre en commun leurs expériences, leurs attentes, leurs réflexions, réfléchir et agir avec les apports de la philosophie sur les grands thèmes de la société. Alors, est-ce que j'ai bien résumé ce qu'est l'association Philo et Partage ?
Certainement, c'est une des définitions qu'on aime bien, qui fait partie du support en fait, qui nous a permis de démarrer l'association il y a maintenant, en 2013, donc il y a plus de 4 ans. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin dans notre société de liens, de créer des liens, qu'il y avait une demande de beaucoup de personnes de pouvoir se retrouver, discuter ensemble. C'est ce qui a donné naissance à l'association.
Alors pourquoi justement avoir créé cette association et quels ont été vos différents partenaires ?
Alors au départ, on a travaillé dans le cadre de la bibliothèque municipale de Saint-Alban. Et effectivement, on avait vu fleurir un petit peu partout en France des cafés philo. Et on s'est appuyé sur cette question du débat. Alors à travers les livres, c'est pour ça qu'il y avait la bibliothèque. Mais les locaux de la bibliothèque n'étaient pas adaptés à nos soirées où on était de plus en plus nombreux. Et donc finalement, on a créé une association pour pouvoir se réunir à la salle des fêtes. Et donc nous avons la plupart du temps des soirées débats. C'est toujours le troisième jeudi de chaque mois. Ou bien, de temps en temps, le débat est un peu plus court parce qu'il est précédé d'une conférence. Quelqu'un qui a une expertise sur un sujet vient l'exposer et on débat ensuite. Mais autrement, c'est le débat qui est fait avec les personnes présentes, qui à chacun apporte ce qu'il a à dire, écoute les autres. Et ce qui est très important pour nous, c'est l'organisation de la prise de parole. Pour qu'on puisse progresser ensemble dans la réflexion, il faut que chacun s'écoute. Et donc, on demande l'autorisation de prendre la parole, on accorde la parole et personne ne coupe celui qui a la parole. Et chacun écoute de façon attentive et jusqu'au bout celui qui parle. Et ça permet effectivement de confronter des idées qui sont différentes et ça nous permet de progresser puisque quand on écoute quelqu'un qui ne pense pas comme nous, on s'enrichit.
Alors là, c'est un véritable exercice parce qu'effectivement, arriver à ce que tout le monde garde dans sa tête les interventions qu'il aimerait faire au fur et à mesure, ça demande une sacrée gestion du temps, une sacrée gestion des personnes.
Oui, une sacrée gestion et puis même quelques frustrations parce que effectivement, quand quelqu'un a envie, comme il dit souvent, de rebondir, et j'aime pas beaucoup ce mot parce que rebondir, ça me fait penser au ballon et les idées, c'est pas des ballons et on ne rebondit pas sur des idées, on prend le temps d'assimiler ce que l'autre vient de dire pour pouvoir effectivement après apporter une autre contribution sous un autre angle, avec une autre lumière, et c'est comme ça qu'on progresse.
Alors combien d'adhérents de cette association ? Comment ça se passe si on veut aller participer à l'une de vos conférences ou des débats ?
Alors pour toutes nos soirées, toutes nos activités sont libres et gratuites, ouvertes à tous. Après, évidemment, comme toute association, on a besoin de membres pour la faire fonctionner. Donc pour les gens qui se sentent motivés, qui ont envie de nous soutenir, on peut adhérer. Hein, donc l'adhésion individuelle, c'est 12 euros par an. L'adhésion familiale est de 18 euros. Et donc on a à peu près un peu plus d'une cinquantaine finalement de personnes qui font partie, qui sont membres de l'association. Et à côté de ça, on a bien sûr des correspondants auxquels on diffuse nos informations par mail, etc., pour pouvoir assister à ces réunions, à ces travaux.
Alors depuis le 2013, il y a dû y en avoir des débats et des conférences. Alors quels ont été les thèmes abordés et quels seraient peut-être les thèmes les plus forts où vous avez rencontré le plus d'attention du public et de débats et qui vous ont poussé justement peut-être à refaire ce même genre de débat?
Alors on a effectivement eu déjà 24 soirées débats depuis la création, depuis septembre 2012 on va dire, où il y a eu 4 débats qui ont été faits avec la bibliothèque municipale et 13 conférences. Les thèmes sont extrêmement variés et c'est une difficulté, c'est pour ça aussi qu'on s'est mis en association, c'est de choisir les thèmes. Donc la première année, avec Jean-Paul, on s'est lancé comme on a pu à l'abordage de ces sujets, et ensuite on a mis en route une pratique qui est de demander justement à tous nos correspondants quels sont les thèmes qu'ils voudraient voir abordés l'année suivante, et ce sont les adhérents de l'association qui choisissent, qui votent pour les thèmes. Donc on va bientôt faire ça là au printemps, de recenser tous les thèmes et de faire voter les adhérents, et les thèmes qui ont reçu le plus de voix sont retenus pour la saison suivante.
Alors est-ce que c'est indiscret de vous demander justement quelles sont vos origines? Est-ce que vous êtes des professeurs, des philosophes? Parce que bon, quand cette idée est née, je suppose qu'il y avait quelque chose là-dessous.
Bien, effectivement, en ce qui me concerne, j'ai fait des études de philosophie. J'ai enseigné la philosophie pendant quelques années en lycée, et puis pour des circonstances professionnelles et de carrière, j'ai embrassé d'autres choses, et notamment des fonctions administratives. Je suis devenu chef d'établissement, principal de collège, puis proviseur. Et donc j'ai laissé un petit peu la philosophie dans les cartons, sauf que dans ma tête ça tournait quand même, et effectivement j'ai gardé ce point de lecture notamment pour nos soirées débats, et j'ai toujours rêvé pendant ma vie professionnelle, disons quand je serai plus en activité, de pouvoir animer ces soirées débats et ces réunions. Je précise simplement que sur les sujets qu'on traite, tous les sujets ne sont pas forcément strictement philosophiques, c'est des sujets de société, mais qui offrent l'objet d'un débat, et qui sont l'occasion d'un débat. Et comme on n'est pas tous d'accord, je pense qu'on exerce notre pensée en tous les cas, et on vise à développer l'esprit critique.
Alors quel type de public vient à ces conférences ou ces débats?
C'est assez varié. Alors il faut être objectif et reconnaître que ce sont surtout des personnes qui ont le temps, donc en retraite. La moyenne d'âge est quand même assez élevée. Mais en même temps, ce sont des personnes de toutes origines professionnelles. Parfois, on peut croire qu'il y aurait plus de gens enseignants, mais ce n'est pas le cas du tout. Et c'est ça qui fait aussi la richesse. C'est justement des expériences qui sont très, très diverses et qui permettent d'avoir des éclairages différents sur les sujets.
Et quand il y a des participations de jeunes, on voit tout de suite la richesse qui est autre et différente. Ils nous apportent un vent d'air frais, et on aime bien avoir aussi, au-delà des personnes comme nous, disons, des jeunes aussi. Et on est ravis de les accueillir.
Alors justement, avant de parler des différentes conférences ou débats qu'il y aura d'ici la fin de ce premier semestre, je sais aussi que vous intervenez dans un collège. Alors là aussi, est-ce que c'est important d'apporter ce genre de parole au sein de collège avec justement des jeunes?
Oui, alors on fait ce qu'on appelle les ateliers philo au collège de Jean Poulenc, qui est le collège de secteur de Saint-Alban. En fait, ce sont les enfants qui nous apportent leurs paroles, parce que tout part de leurs propres interrogations. La première partie de la séance, c'est la cueillette des questions, de leurs propres questions, et donc on arrive parfois à avoir une dizaine de questions sur les trois premiers quarts d'heure. Ensuite, ils choisissent une des questions qui sera retenue pour la séance, la deuxième partie de la séance, et là c'est eux qui apportent leur réflexion, et c'est, Jean-Paul disait, la fraîcheur de la jeunesse, mais par rapport à des collégiens, c'est formidable. Ils ont une spontanéité, ils se posent des questions, comme ils le disent eux-mêmes, qu'ils n'oseraient pas poser à leurs parents, ni à leurs enseignants. Alors soit une question de pudeur, soit une question de disponibilité des adultes pour écouter ces choses-là. Et ce qui est important dans notre association, c'est que ce travail qu'on fait, soit avec les petits, soit avec les adultes, est toujours acté d'un compte-rendu. Donc une synthèse de ce qui est dit, et on le met sur notre site internet, que les gens peuvent le retrouver, tous les débats qu'on a eus, tous les ateliers qu'on a eus avec les enfants sont sur internet, sur le site philoetpartage.fr.
Alors là c'est pareil, tout est permis quand vous faites ces ateliers avec les jeunes, toutes les discussions, il n'y a pas de tabou?
Alors, il n'y a pas de tabou. Les limites qu'on se met, c'est que les questions doivent avoir un caractère général et qu'elles ne soient ni techniques ni scientifiques. Auquel cas, on renvoie vers les professeurs en question. Professeurs de sciences, professeurs de mathématiques.
Et comment c'est accueilli, justement, par le personnel enseignant et par le proviseur? Bon, s'ils vous ont accueilli, c'est déjà qu'ils avaient déjà une idée en tête. Mais est-ce que, voilà, vous ne passez pas? Est-ce qu'il n'y a pas des petits...
Alors, on a été très bien accueillis. C'est déjà le troisième proviseur principal, pardon, au collège depuis le temps qu'on fait les ateliers philo, et on est toujours très bien accueillis. On peut regretter que les enseignants ne s'intéressent pas plus à ce qu'on fait avec les enfants, mais on sait aussi qu'ils ont beaucoup de travail et qu'ils sont pris par ailleurs, quoi. Hein.
Et les enfants vont sur la base du volontariat ces ateliers?
Oui, tout à fait, oui. Oui.
Et il faut noter, comme le disait Jean-Pierre, c'est que la réflexion philosophique est plus difficile pour les adultes qui ont des retenues, qui ont des surmois, j'ose dire. Les enfants se lâchent et se posent des vraies questions de fond, des questions vitales. Les questions de vie, pour eux, sont essentielles. Et vraiment, on a beaucoup de satisfaction aussi avec eux.
Autant de filles que de garçons?
Alors ça, c'est assez marrant, parce que quand on a démarré, on n'avait que des garçons. Puis, il y a eu une période où ça s'est mixé, et maintenant, on a beaucoup plus de jeunes filles que de garçons. Au printemps, au début d'année, il y a eu un garçon qui est venu, tout le reste, c'était des filles, quoi. Hein. Le groupe varie entre 6 et 12 enfants.
Elles se sont émancipées. Alors, on va revenir à votre planning. Alors, une date à retenir déjà, le 16 mars, une soirée débat sur qu'est-ce que la démocratie. Alors, à quelques semaines des élections présidentielles et puis des députés, là aussi, c'est un débat qui va s'annoncer chaud, je suppose.
Et oui, et pourtant, on n'avait pas fait exprès. On savait quand même qu'il y avait des élections, mais Jean-Pierre expliquait tout à l'heure que notre programme, il est arrêté un an à l'avance. Et non seulement c'est un sujet d'actualité, mais un sujet chaud, parce que notre campagne est quand même bien particulière. Et le problème de la démocratie se pose. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Comment fonctionne-t-on? Et je crois qu'effectivement, sans anticiper sur le débat, on peut vraiment se questionner sur l'avenir démocratique de nos sociétés occidentales.
Alors sur un débat tel que celui-ci, est-ce que vous n'avez pas peur justement que certains politiques peut-être viennent pour faire une tribune chez vous?
C'est un des dangers de notre système de fonctionnement. Et on y est très vigilant, et les personnes qui encadrent essayent de faire très attention. C'est un souci constant. Néanmoins, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu vraiment l'occasion de débordement, quelques prises de position. Mais là, comme la parole est libre, les gens qui s'expriment, ils ont le droit d'exprimer leurs opinions et leurs avis. Néanmoins, tant qu'on n'est pas dans le militantisme qui viendrait perturber la réflexion, puisqu'on n'est pas dans une soirée militante ou politique, on est dans une soirée de réflexion philosophique. Et on essaye de maintenir cet objectif contre vents et marées. Et on sait bien que ce soir-là, il y aura effectivement, probablement, des prises de parole un petit peu difficiles. Mais l'intérêt est que, justement, les gens qui ont des opinions diverses puissent s'exprimer diversement.
Alors, on va passer les autres dates. Le 20 avril, vivre la vieillesse. Un vaste sujet, là aussi, voilà. De société.
Oui, de société.
Oui, oui, oui. La pyramide des âges est bien complexe. Elle est bien différente de ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années. Et la vieillesse peut avoir ses charmes, mais on voit bien aussi les difficultés du vieillissement. Et donc, on va essayer de débattre de tout ça.
Le 18 mai, cette fois-ci, ce sera une conférence. L'éducation appartient-elle uniquement aux parents?
Alors, c'était une question, une conférence qu'on voudrait... avec à plusieurs voix, on va dire, avec des personnes une personne qui sera enseignante, une autre qui est éducateur de jeunesse, et après on aura une personne qui parlera des liens qu'il devrait y avoir normalement entre l'éducation et les parents. Et ce qui est intéressant, ça sera surtout d'avoir aussi encore un débat, hein. Donc les interventions seront relativement courtes, 10 minutes, un quart d'heure, pour qu'il y ait suffisamment de temps pour parler de ces questions-là, parce qu'on se rend bien compte que c'est aussi une question fondamentale de notre société, cette question de l'éducation, qui avait curieusement d'ailleurs été choisie par les enfants du collège il y a quelques semaines. Et leur question à eux, c'était pourquoi l'éducation n'est-elle pas... Tous les enfants n'ont pas tous la même éducation. C'était ça leur
préoccupation. Le thème de l'éducation est récurrent chez nous, puisque de toute façon, là, on voulait aborder un versant qui est autour des parents et savoir s'ils avaient un peu le monopole. On a déjà fait des débats sur l'école. Donc, ce n'est pas un débat sur l'école qu'on a déjà fait. Néanmoins, c'est un autre aspect de quelque chose qui nous paraît important. Il y a d'ailleurs un thème qui est sous-jacent, c'est aussi celui de la parentalité et de la difficulté d'être parent, que ce soit des enfants en bas âge ou des ados. C'est pas toujours facile d'être parent. Et parfois, on a une société qui culpabilise beaucoup les parents, et je crois qu'il faut aussi qu'on veille à ça.
Et puis, effectivement, là, on fait peut-être appel à tous les parents, les jeunes parents qui pourraient venir à cette conférence, puisque, comme vous le disiez en ouverture, cela manque un petit peu de jeunesse. Et puis, moi, j'ajouterais peut-être quelque chose. L'éducation nationale faudrait peut-être aussi revoir le nom de cette institution. Alors, on terminera le 15 juin 2017 avec la marchandisation du vivant et biotique. Alors là aussi, très grand sujet.
Oui, oui, c'est aussi un sujet... qui est fondamental pour notre dans la vie de tout le monde. On s'en rend pas compte actuellement, on en parle finalement peu, mais à partir du moment où on pourrait la science est tellement puissante qu'on arrive à avoir des interventions sur le corps humain, sur le cerveau, qui permettent d'aller de très très loin dans toutes sortes d'expériences. Et donc il faut qu'on soit très attentif à ces questions, surtout quand on sait que ce sont les grands laboratoires, les grandes institutions qui peuvent profiter de cette marchandisation, donc de ce commerce avec le vivant.
Même si effectivement il y a des besoins énormes en termes de médecine, de thérapie. Et je crois qu'il ne faut pas non plus nier le progrès. Il y a des choses qui se font avec des greffes. Et la médecine a progressé aussi parce qu'elle a permis les greffes. Et maintenant, on est dans un développement généralisé de tout ça. Mais jusqu'où peut-on aller trop loin dans ces domaines ?
Eh bien, je vous remercie. Donc, on rappelle à nos auditeurs votre site internet www.philoetpartage.fr. Et puis, n'hésitez pas justement à aller à ces débats ou ces conférences. Et puis, on va terminer avec une musique que vous avez choisie. Laquelle et pourquoi ?
État des lieux, c'est une autre façon de dire qu'on observe, on développe notre esprit critique et on analyse le monde pour mieux vivre dans le monde. État des lieux, c'est Bernard Lavilliers et qui a sa conscience éveillée sur l'ensemble des problèmes mondiaux et de la planète.
Merci.
Merci beaucoup.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés. Des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois l'énorme appétit de matière, cette montagne de déchets, des sous-marins coulés. Mais nucléaire, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude,
Vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition, on va payer. Je vois des océans couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature a su, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest,
vous êtes toujours sur Couleur FM, c'était le coup de cœur musical de notre invité, de nos invités, pardon, de la semaine.
Alors la semaine dernière dans Écolocal, nous avions parlé du Salon Primevert, le salon de l'Alter Écologie, 31e édition, qui se tiendra à Lyon Eurexpo du 3 au 5 mars 2017. Il sera présent pour cette nouvelle édition 2017, il s'agit du paysan écrivain Pierre Rabhi, pionnier de l'agroécologie et auteur de La sobriété heureuse. Nous vous proposons un extrait d'une conférence qui a été réalisée par la radio Info RC avec 6 élèves de 6 établissements scolaires d'Aubenas et nous vous proposerons l'intégralité de cette conférence la semaine prochaine.
Monsieur Rabhi, vous êtes né en 1938 à Kenadza dans le sud de l'Algérie. À la mort de votre mère, à l'âge de 4 ans, vous avez été confié par votre père à un couple de Français et vous partagez donc votre enfance entre la France et l'Algérie, une double culture. À la fin des années 50, vous décidez de venir vous installer en France et trouver un poste d'ouvrier spécialisé. Cette expérience professionnelle et d'autres événements vous donnent envie de vous extraire de cette vie urbaine pour vous diriger vers l'agriculture. Vous servez donc en Ardèche dans les années 60 et obtenez un diplôme agricole. C'est à cette période que vous comprenez les méfaits de l'agriculture intensive et que le concept d'agroécologie naît. Pouvez-vous nous parler du cheminement intellectuel qui vous a amené à ce concept d'agroécologie ?
Merci beaucoup, merci de votre confiance, de m'avoir accueilli à cette radio. Et je trouve que la formulation est excellente, ça résume bien les choses. Disons que c'est plus une expérience directe. Je vivais à Paris, donc vous avez expliqué que je venais de l'Algérie, du désert même. Je suis un enfant du désert, mes ancêtres étaient des nomades et sédentarisés. Donc vous savez ce que c'est que sédentarisés, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné leur vie itinérante avec des troupeaux pour s'installer. Et c'est comme ça que notre souche a pris dans ce pays qui a été cité. Et alors, double culture, évidemment très jeune, et j'essaye de comprendre des deux mondes, des deux cultures, parce que le problème quand on est double culture, c'est que je passais, moi, de l'islam au christianisme. Et je passais aussi de la tradition à la modernité, du nord au sud. Et tout était double, en quelque sorte, et on se pose des questions, de savoir, bon, quelle est sa propre identité. C'est-à-dire que vous naissez dans une culture. C'est votre culture, elle vous détermine, vous naissez, on vous éduque, on vous adapte à votre culture, c'est celle de vos parents, de vos grands-parents, etc. Nous, quand on appelle double culture, c'est-à-dire qu'on est bien sûr dans notre culture traditionnelle, mais on nous dit qu'il faut adopter une autre culture. Et donc, on n'est pas dans le cheminement que nous faisons de notre vie, nous ne sommes pas dans la voie qui aurait dû être la nôtre, qui aurait dû être tracée. Donc on change de culture, on change de valeur, on nous fait comprendre les choses autrement, on nous adapte pour rentrer dans la civilisation moderne, jusqu'à nous dire que nos ancêtres étaient des Gaulois. Voyez, donc on essaye de s'adapter à cette culture et en même temps ça active le questionnement sur l'identité. Vous voyez ce que c'est que l'identité, c'est-à-dire qui suis-je? Voilà, je me pose des questions. Qui suis-je? Est-ce que je suis d'une culture? Est-ce que je suis d'une autre? Quelle est la culture qui a raison par rapport à l'autre culture? Et finalement, moi-même, qui suis-je? Alors ça amène très tôt à se poser des questions assez sérieuses qui n'ont pas forcément un rapport avec les mathématiques ou autres, où j'étais nul. Mais par contre, je me posais des questions sur la vie, sur le monde. Ce qui fait que d'une façon très, très jeune, je suis rentré dans des questions qui étaient des questions d'adultes, de gens mûrs. Et quand vous êtes comme ça, vous tiraillez entre deux cultures, alors ça accélère un peu votre maturité et vous essayez de vous poser des questions qui sont des questions très sérieuses. Ce qui m'a amené très jeune vers la philosophie, très jeune vers tout ce qu'on pourrait dire, la littérature et tout ce qui concerne le questionnement de l'être humain par rapport à lui-même. Avant même d'être ceci ou d'être cela, qui sommes-nous? À quoi servons-nous? Est-ce qu'on a une raison d'être ici-bas, etc. Et c'est ça qui a fait un peu accélérer la maturité. Et donc je suis allé travailler en France, et en cherchant à travailler en France à Paris, hein, je suis allé à Paris, à ce moment-là je me suis rendu compte que je n'avais pas acquis de qualification. C'est-à-dire que vous savez que pour trouver un boulot, on vous demande un CV, hein, qu'est-ce que vous savez faire, etc. Moi je ne savais pas faire grand-chose. Donc je suis devenu un OS, un ouvrier spécialisé. Et vous savez ce que c'est que l'ouvrier spécialisé? C'est en fait, on appelle l'ouvrier spécialisé, c'est lui qui n'est pas spécialisé en rien. C'est-à-dire qu'on on nous console en nous disant que nous sommes des ouvriers spécialisés, mais en fait, nous sommes un peu les bons à tout faire, quoi. J'avais fait un peu de prothèse dentaire, j'étais employé de banque, etc., mais j'avais rien acquis de particulier.
C'était donc Pierre Rabhi. À noter qu'il tiendra une conférence le vendredi 3 mars à 20h, hall 4, sur la convergence des consciences au Salon Primevert à Lyon. Pour plus d'informations, http://salonprimevert.org. J'avais envie de faire intervenir justement mes deux invités, puisque là on est aussi dans la philosophie avec Pierre Rabhi.
Ah ben Pierre Rabhi est quelqu'un qui nous questionne vraiment. Il l'a dit, hein, cette question de l'identité, l'identité par rapport à la culture, ou les cultures, puisqu'il est de deux cultures, mais des rapports de la culture et de la nature qu'il n'a pas développé encore ici, mais c'est, dans ses ouvrages, on voit bien que cette question du rapport de culture et de nature sont aussi sous-jacents. Il faut bien voir qu'effectivement, contrairement à ce que véhiculent beaucoup d'idéologies dans nos sociétés contemporaines, où la nature prendrait beaucoup de place, la culture serait un peu à la portion congrue. En réalité, on s'aperçoit que la culture est plus importante que la nature et que, y compris dans la construction de la personnalité, de la mémoire et de nos conditionnements, nos imprégnations sont davantage culturelles que génétiques. Et je ne veux pas nier la génétique, mais enfin, ce que nous dit les sciences, les neurosciences en particulier, c'est que il y a une imprégnation du cerveau à partir de notre environnement et qui est donc un phénomène culturel. Et je crois que Pierre Rabhi souvent évoque ces questions et c'est très intéressant.
Oui, moi j'ai beaucoup d'estime aussi pour Pierre Rabhi parce que c'est un philosophe, c'est un poète, et puis c'est aussi quelqu'un qui a bien compris tout ce qui se passe dans l'environnement. Et il a alerté sur les dérèglements climatiques très tôt et sur les façons de produire autres que celles du productivisme qu'on connaît dans les champs avec tous les pesticides, insecticides et autres fongicides. Et l'intérêt aussi de Pierre Rabhi, c'est qu'il a démontré qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'il a expérimenté des techniques pour lui, et ensuite il les a fait connaître un peu partout, par des associations, par des chantiers de jeunes, etc. Et ça, c'est quand même très très remarquable et très appréciable.
Et on retrouvera donc en intégralité la semaine prochaine cette conférence de Pierre Rabhi. Et puis je vous invite à aller à Primevert, mais je pense qu'il va y avoir du monde à cette conférence. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 97.1, vous êtes dans l'Écho local, une émission consacrée à l'actualité de notre territoire, diffusée sur Couleur FM le jeudi de 12h à 13h, rediffusée le vendredi à 19h, le samedi à 7h et le dimanche à midi.
Et cela vous concerne si vous êtes une association, une collectivité territoriale ou un organisme à but non lucratif. Ceci peut vous intéresser. Carmen Sanchez, déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est, vous convie à un temps de présentation et d'échange autour de l'appel à idées et projets tissage d'initiatives à Villefontaine. Ça aura lieu le jeudi 9 mars à partir de 17h au Grand Atelier Boulevard de Villefontaine. Explication.
Alors justement, habituellement, les structures qui nous connaissent savent qu'on a des appels à projets qui interviennent sur des causes, sur des programmes, sur des secteurs bien identifiés, les personnes âgées, l'emploi, l'environnement. Et là, comme on change un petit peu de posture, on part pas d'un besoin identifié par nous et sur lequel on veut apporter des réponses via les porteurs de projets. Là, c'est l'inverse. On a réfléchi, on avait des critères et on a choisi donc le territoire du Nord-Isère pour avoir une entrée en fait tout à fait territoriale. Donc a priori, même si on a exploré et on a vu les difficultés qu'il y avait sur le Nord-Isère, je pense à l'isolement, la mobilité, mais l'idée c'est que a priori, il n'y a pas de problématique que nous on cerne, mais c'est vraiment le territoire donc du Nord-Isère qui nous fait remonter les besoins et les solutions qu'il a, les acteurs, les solutions qu'ils ont envisagées. Ça peut être des solutions autour d'un projet, mais des fois ça peut être une idée et on peut aussi apporter notre soutien sur une initiative qui n'est encore pas un projet.
Alors par contre, il y a toujours les mêmes thématiques qui sont présentes, comme développer la connaissance, aider les personnes vulnérables, développer la philanthropie, agir pour l'environnement. Il y a toujours des thèmes forts pour lesquels, par contre, vous n'avez pas d'idée préconçue sur les projets qui pourraient être amenés.
Voilà, en fait, il faut bien sûr que ce soit, on peut effectivement le redire, il faut que ce soit un projet d'intérêt général, donc c'est-à-dire que à but non lucratif et qui corresponde à un besoin émergent du territoire, quoi. Hein. En général, on aurait dit un besoin social, socioculturel, voilà. Mais on le voit, ça peut être tout à fait divers, parce que on a déjà une année d'intervention sur ce programme et sur le Nord-Isère. L'année dernière, on a aussi bien pu soutenir un organisme de médecine du travail avec le XAPA qui vont apporter une aide à des entreprises PME du bâtiment pour tout ce qui concerne les conduites addictives des salariés, et en particulier sur les produits psychoactifs, notamment l'alcool. Mais on a pu soutenir un projet sur Bourgoin autour des déplacements doux. Et là, c'est autour d'un atelier vélo. Enfin voilà, il y a vraiment une diversité des projets qui nous sont montés, qu'on peut soutenir financièrement. Effectivement, il faut que à chaque fois, effectivement, les habitants soient acteurs dans le projet. On voudrait aussi que ces actions, ces projets facilitent la mutualisation des compétences et des ressources locales. Hein, c'est pas quelque chose qui vient d'extérieur, mais c'est vraiment ancré avec et pour les forces vives du territoire.
Avec éventuellement différents acteurs, on peut très bien avoir des personnes individuelles, des associations, même voir des institutions qui rentrent dans un même projet ou qui proposent une idée. Alors on rappelle le territoire, ça va de Vienne, Eyrieux, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, La Tour du Pin, Crémieux et Morestel et Pont-de-Beauvoisin, que j'allais oublier au bout du territoire. Oui. Là aussi, c'est important d'être sur un territoire étendu comme ça. Combien avez-vous eu de réponses l'année dernière sur l'appel 2016 ?
L'année dernière, on a eu en projet une dizaine de projets et on en a soutenu 5. Et en idée, on a dû en avoir de mémoire 10. Et on a soutenu au final 7. On a accompagné 7 idées.
Donc, lors de cette réunion du 9 mars, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, puisqu'il y aura plusieurs temps forts dans cette réunion ?
Oui, en fait, on va faire ça en deux temps. Le premier temps de 5 à 6, c'est un temps traditionnel. Hein. On va présenter l'appel à idées, à projets de tissage d'initiative, pourquoi on a cette démarche spécifiquement sur le Nord-Isère, quels sont les critères pour être éligible à cet appel à projets idées, Qu'est-ce qu'on entend par l'accompagnement de porteurs d'initiatives qui veulent passer de l'idée au projet? Quel soutien financier qu'on peut apporter aux porteurs de projets? Donc ça, ce sera la première heure. On va surtout privilégier les échanges et répondre aux questions. Et puis le deuxième temps, qu'on fait moins souvent, de 18h à 19h, là, on va, une fois que bah, effectivement on a une idée de ce qu'est cet appel à idées et à projets, on se dit, bah ouais, moi j'ai un projet, j'ai une idée qui pourrait correspondre à l'intention de la Fondation de France. Ben, la deuxième étape, c'est que ben, il faut que ce projet ou cette idée, on la présente. Pour ce faire, la Fondation de France a établi un dossier de demande de subvention ou un dossier de demande de subvention pour les projets et un questionnaire pour présenter les idées. Et l'idée, c'est vraiment ben, de dire ce que c'est que ce dossier de demande de subvention, pourquoi il est comme ça, ces questions, ben, si elles sont pas évidentes, ben, on illustrera par des exemples comment répondre. On veut décortiquer un peu le dossier de demande de subvention avec les personnes présentes pour leur montrer que c'est pas si compliqué que ça, finalement, de remplir un dossier de demande de subvention. Et puis, la même chose pour le questionnaire. On peut avoir une idée, il faut quand même la présenter. Là, la présentation d'idées au travers du questionnaire, elle se fait de manière beaucoup plus légère, je voulais dire. Il s'agit de répondre à quelques questions. C'est, voilà. L'idée, c'est vraiment de lever a priori un maximum de freins aux porteurs de projets, aux porteurs d'initiatives, pour qu'ils passent le cap, s'ils pensent qu'effectivement ils ont un projet, une initiative qui soit bien du tissage d'initiative.
Ça va être un moment de pédagogie et puis effectivement de désamorcer toutes les peurs et les craintes que chacun a quand il se trouve face à des dossiers de demande de subvention ou autre.
Tout à fait. En tous les cas, c'est notre intention et on espère que ça marchera bien comme ça.
C'était Carmen Sanchez, déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est, au micro de Véronique Boulieu.
On rappelle quelques dates, donc la réunion du 9 mars 2017 au Grand Atelier à Villefontaine à partir de 17h, le dépôt des dossiers 14 avril au plus tard pour un jury en juillet 2017 et le 15 septembre pour un jury en décembre 2017. Nous espérons que plein d'idées de projets seront portées en Nord-Isère.
Restons dans le territoire du Nord-Isère justement et direction Saint-Quentin-Falavier et plus précisément le parc de Chêne. Il va accueillir le mardi 7 mars et le mercredi 8 mars, la 4e édition du salon 100% logistique. Au micro de Radio Couleur FM, Manon Paris, chef de projet au pôle intelligence logistique.
Logistique Expo a été créé afin de lutter contre les préjugés qu'il y a dans le secteur de la logistique. La logistique est un des premiers secteurs sur le territoire du Nord-Isère et notamment de la CAPI. Malheureusement, la logistique souffre de nombreux préjugés et qui peuvent être des freins pour l'accès aux métiers et aux emplois. Donc l'objectif est vraiment d'inviter les futurs logisticiens, donc demandeurs d'emploi, scolaires, à venir découvrir ce secteur afin qu'ils aient une vision concrète et réelle de ce secteur porteur sur le territoire.
L'une des spécificités, c'est que justement ce salon se tient au sein d'une usine.
Tout à fait. Nous louons pour l'occasion un entrepôt logistique vide que nous aménageons pour l'occasion afin vraiment d'immerger au plus concret et plus réel les visiteurs. Ainsi, ils découvriront des engins de manutention, les chargements et déchargements de camions. Ils verront des racks, systèmes informatiques qui y est, etc., etc. Donc vraiment plonger dans le concret les visiteurs.
Donc il y aura deux jours, mais c'est pas forcément le même public, c'est ça?
7 mars est dédié aux scolaires où nous avons invité différents établissements scolaires, donc collèges et lycées du territoire et de l'Est lyonnais à venir découvrir. Donc là, c'était sur inscription. Donc en effet, c'est clos. En revanche, la journée du 8 mars est ouverte au grand public. Nous réalisons cette manifestation notamment en relation avec le Pôle emploi et la CAPI. Ainsi, il faut s'inscrire auprès du Pôle emploi. Que vous soyez demandeur d'emploi, parents d'élèves ou personnes en reconversion, en insertion, salariés. Voilà, tous les profils sont les bienvenus. Tous ceux qui souhaitent éventuellement s'informer sur ces métiers-là, justement. Que ce soit la Logistique Expo ou ne serait-ce que venir voir les finales du championnat Icaris ou l'exposition photo, il faut s'inscrire auprès du Pôle emploi qui ont créé également un événement sur internet où toutes les coordonnées sont indiquées et tous les pôles emploi sont à même de retrouver l'information et de vous inscrire.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les horaires?
C'est ouvert de 8h30 à 18h. Les circuits de visite, en revanche, car nous sommes sur des circuits de visite tous les quarts d'heure, partent de 8h30 à 16h.
Est-ce que vous pouvez nous détailler comment ça va se passer ce circuit? Qu'est-ce qu'on va y apprendre?
On a mis la logistique du e-commerce à l'honneur cette année. Donc les visiteurs arriveront et feront une simulation d'une commande sur internet où ils pourront choisir différents produits. À la fin, quand ils cliquent, ils vont découvrir ce qui se passe derrière. Donc ils vont arriver sur une partie exploitation où ils verront de la réception au stockage ainsi que la préparation et l'expédition du produit commandé. Donc ils verront différents matériaux et produits réels de la logistique. Et à la suite de ça, ils seront amenés sur un espace mini-conférence où on pourra notamment les informer sur les formations pour accéder à ces métiers-là, comment ça se passe dans les différents emplois entre l'intérim et les emplois pérennes. Et à la suite de ça, ils arriveront sur un espace orientation emploi-formation où là, des entreprises seront présentes notamment pour recruter, pour les informer. Il y a également des organismes de formation qui seront présents pour vraiment accentuer le projet du visiteur.
C'est la 4e édition de ce salon, mais la première biennale 100% logistique.
Tout à fait. Cette année, la nouveauté, grâce à différents soutiens, notamment de la CAPI, nous organisons la première biennale de la logistique autour de Logistique Expo. Donc, il va y avoir Logistique Expo, comme on a pu présenter, mais également différentes manifestations autour, notamment un championnat des caristes qui a lieu le 7 et 8 mars. Donc, le 7 mars, ce sont les sélections. Les entreprises ont pu inscrire leurs collaborateurs pour venir justement se challenger. Et le 8 mars, notamment les visiteurs qui viendront sur Logistique Expo pourront découvrir et voir ces professionnels en action lors des finales. Il y a également une exposition photo sur les femmes en logistique, justement pour montrer que la logistique n'est pas forcément un métier d'hommes, mais aussi de femmes, et qu'il y a des femmes qui exercent dans ce domaine-là et qu'il faut vraiment casser les préjugés à ce niveau-là. Donc on a fait des beaux portraits de femmes du territoire travaillant dans ce secteur-là. Et nous avons également différentes actions, notamment un challenge étudiant qui est dédié à des étudiants, notamment en formation supérieure, qui vont pendant 24 heures travailler sur des cas concrets d'entreprise. Et nous organisons également différentes visites à destination des prescripteurs et des salariés afin eux-mêmes de leur présenter la logistique ou du moins les informer sur les évolutions possibles dans ce secteur.
Pour donner quelques chiffres, Saint-Quentin-Falavier, c'est l'une des plus importantes plateformes logistiques d'Europe. Et 10 000, c'est le nombre d'emplois liés à la logistique rien que sur le territoire de la CAPI. C'est quand même énorme.
En effet, c'est en fait l'un des premiers secteurs d'activité du territoire. Donc c'est pour ça qu'il faut des personnes pour travailler dans ces entrepôts. Tout l'intérêt d'organiser la biennale de la logistique. Il faut savoir qu'en France, quand même, un emploi sur 10 est en lien avec la logistique. Donc du coup, c'est vraiment un secteur qui recrute. Les emplois sont non délocalisables et où près 80% des postes sont en CDI.
Revenons maintenant au pôle intelligence logistique. Quel est votre rôle, vos missions ?
Alors, le pôle d'intelligence logistique a été créé déjà en 2007, destination des entreprises. Les entreprises étaient voisines, elles avaient de nombreuses problématiques communes et se sont dit ça serait bien qu'on travaille ensemble pour essayer de les résoudre. Du coup, autour de ça, il y a différents axes de travail. Nous sommes notamment mobilisés sur tout ce qui est l'axe ressources humaines, où notamment nous menons des actions de GPEC territoriale, donc gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriales, avec de nombreuses entreprises du territoire, mais aussi avec la CAPI, avec la région, avec l'État, qui sont fortement mobilisés. On a un axe important aussi de tout ce qui est organisation et solutions techniques, donc via les innovations qu'il peut avoir dans les différents dans les entrepôts notamment. On a un axe assez fort sur tout ce qui est développement durable aussi. Nous proposons également des actions autour de la promotion des métiers, donc dans le cadre notamment de Logistique Expo. Et nous permettons aussi à de nombreuses entreprises et à nos adhérents un réseau où elles puissent échanger entre elles sur des problématiques, mais aussi échanger sur tout autre domaine.
Donc quelqu'un qui veut par exemple travailler dans ce domaine-là, il doit passer par Pôle emploi, par vous, comment ça marche ?
Alors nous sommes totalement partenaires sur ce sujet-là. Nous, on peut faciliter les recherches d'emploi de personnes, car en effet, nous pouvons envoyer les CV et les lettres de motivation au sein à notre réseau. Il suffit de nous l'envoyer. En revanche, le Pôle emploi ne se substitue pas et est également un grand partenaire pour toutes les personnes qui recherchent un emploi dans le secteur.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner vos coordonnées, le site internet ?
Tout le monde peut se rendre sur le site internet qui est le pôle-intelligence-logistique.com où il y a différentes informations sont notamment indiquées, mais également, on peut nous contacter au 04 74 95 98 31 pour plus d'informations sur la logistique.
C'était Manon Paris, chef du projet au Pôle Intelligence Logistique, une interview réalisée
par Estelle Gély.
Voilà.
C'est le moment de retrouver William pour sa chronique musicale de la semaine.
Et bah oui, c'est le moment de la pause musicale, le coup de cœur plus précisément. Et aujourd'hui, nous allons parler de Stromae. L'artiste belge de 31 ans s'est fait connaître en 2009 avec son single « Alors on danse », qui s'est vite classé dans les top classements français, mais le chanteur a très vite disparu des écrans après son buzz. Il revient en force en 2014 avec le clip vidéo « Papa Outé » qui est un véritable carton dans le monde entier. Avec un tel succès, il publie le clip vidéo formidable qui est assez original parce qu'il a été tourné en caméra cachée, assez exceptionnel. Son album Racine Carrée se vend à 2 700 000 exemplaires, ce qui est vraiment pas mal à l'heure d'aujourd'hui. Puis Stromae disparaît des radars une nouvelle fois, mais avec de bonnes raisons, il décide de faire une pause en tant que chanteur et de se concentrer sur l'écriture, la composition et production pour d'autres artistes. Le 22 février dernier, c'est la chanteuse Vita qui publie une vidéo d'une session studio où on aperçoit le maestro belge à ses côtés qui lui donne des conseils. Le single de leur collaboration « Peine et pitié » sera disponible le vendredi 3 mars 2017. Alors pour son retour, j'ai choisi comme coup de cœur son single « Formidable ».
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
C'était Stromae, formidable.
C'est l'heure de la deuxième partie de notre émission. On part dans le monde de l'art visuel, place à la rubrique cinéma de Véronique Boulieu.
Votre actualité cinématographique dans votre cinéma Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, notre partenaire pour la semaine du 8 au 15 mars 2017. Trois nouveautés cette semaine. Trainspotting, un drame anglais de Danny Boyle avec Ewan McGregor, Robert Carlyle, Johnny Lee Miller et Ewen Bremer. Logan, un film de science-fiction américain de James Mango avec Hugh Jackman, Patrick Stewart et Eric Lassalle. Patiente, ce sera mon coup de cœur, une comédie dramatique française de Grand Corps Malade et Mehdi Edir avec Pablo Poli, Soufiane Kerab et Moussa Mansali. Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétra-para-trauma-crâniens, bref, toute la crème du handicap. Ensemble, ils vont apprendre la patience, ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire, mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patient est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique, fait de victoires, de défaites, de larmes, d'éclats de rire, mais surtout de rencontres. On ne guérit pas seul. L'association Cinéma Hors Piste vous propose la quinzaine du cinéma russe, en partenariat avec la médiathèque. Vous pourrez ainsi voir Léviathan, un drame russe, et puis Le vilain petit canard, un film d'animation russe de Gary Bardin. Pour plus d'informations sur les horaires des séances, www.kinépolis.fr. Et si vous souhaitez gagner vos places pour aller voir un film à Kinépolis, c'est tout simple, vous téléphonez au 04 74 27 80 80, vous nous dites quel était le coup de cœur cinématographique de la semaine et surtout, vous nous laissez vos coordonnées.
Merci Véronique, vous êtes toujours dans l'écho local sur Couleur FM et on a quelques petites infos locales du jour. Nous avons évoqué l'écologie plus tôt dans l'émission, le printemps est bientôt de retour, cela peut être l'occasion de faire un geste pour la planète en achetant un vélo à assistance électrique et surtout de bénéficier d'une aide d'État. Cette nouvelle aide en place jusqu'au 31 janvier 2018 s'adresse à toute personne majeure domiciliée en France. Son montant est fixé à 20% du coût du vélo sans dépasser de 100 euros. Attention néanmoins, le vélo doit répondre à certaines conditions. Il doit être neuf, ne pas être muni d'une batterie en plomb, être équipé d'un moteur auxiliaire électrique dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le vélo atteint la vitesse de 25 km/h. Cette aide sera soit déduite du prix d'achat, soit remboursée après achat par le billet de l'agence de services et de paiement, l'ASP. Donc pour toute demande d'information, vous pouvez contacter directement l'ASP par téléphone au 05 55 12 00 00, soit par courriel à info@asp-public.fr.
Vous le savez, la radio Couleur FM donne la parole aux enfants des écoles dans le cadre des TAP, temps d'activité périscolaire. Aujourd'hui, nous retrouvons les élèves de l'école Linné au quartier de Champfleury de Bourgoin-Jallieu. Ils sont allés poser des questions à Manu, l'intervenant rugby, sous la direction d'Estelle Gielli.
Comment t'appelles-tu ?
Emmanuel Pellors, mais on m'appelle surtout aussi dans les écoles Manu.
Quel est ton métier ?
Je suis intervenant en rugby pour le CSBJ.
Depuis quand fais-tu ce métier ?
Je fais ce métier depuis 2006 où j'ai été embauché.
Est-ce que tu aimes ton métier ?
Oui, j'aime beaucoup mon métier.
Pourquoi tu aimes ton métier ?
Parce qu'il tourne autour du rugby, mais il touche beaucoup de public qui est varié entre les écoles primaires, mais aussi des joueurs qu'on a au club et qui sont dans les sections rugby au collège, et voire les lycéens. Et j'entraîne aussi une équipe, donc le public est très varié.
Qu'est-ce que tu fais en rugby ?
En ce qui concerne les écoles primaires, c'est vraiment de la découverte de l'activité rugby, à travers des jeux un peu ludiques, mais surtout du rugby sans contact, où on joue avec des flags. Et ce qui remplace le plaquage, c'est d'arracher le flag du joueur qui a le ballon.
C'était les apprentis journalistes de l'école Linné de Bourgoin-Jallieu. C'est l'heure de retrouver Mathieu pour son disque de la semaine.
On va faire des allers-retours entre les continents et dans différentes époques. On part maintenant en Allemagne découvrir un projet avant-gardiste ultra énergique. Le retour des grands représentants de l'afrobeat allemand, Karl Lechter and the Malkunz, dans le disque de la semaine.
Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crêpes.
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est pour moi le plus beau de la semaine.
Le disque
de la semaine.
Signé sous le label californien Now Gens, des Heliocentrix, de Seo George ou de Dimlight, ce projet d'aujourd'hui se présente comme une odyssée psychédélique funk imprégnée de culture africaine. Aux côtés de Bob Aral, autre membre des Poets of Rhythm, Gigi Whitefield des White Tulip Brothers, le leader a composé plus de 20 titres qui illustrent la route de Karl Lechter. Un projet enraciné dans les rythmiques funk de James Brown et dans l'afrobeat de Fela Kuti. La musique des Malkunz, c'est pour moi une bombe surpuissante. De la fratrie munichoise Whitefield, on connaissait le goût du funk original avec le premier album des Poets of Rhythm dont ils furent les membres fondateurs et à l'origine de ce gros revival au début des années 2000 et de l'appétence pour l'Afrique. Tout d'abord sous le nom des Whitefield Brothers, puis séparément avec le projet Karl Lechter and the Malkunz de Yann ou encore les récentes aventures ghanéennes de Max. Après leur manipulation habile des musiques d'Afrique du Nord, de l'Est sur fond de jazz funk psyché, Karl Lechter and the Malkunz sortent un nouveau disque du nom de Can't Stand the Pressure. Les 10 musiciens puisent leurs racines dans l'afro-funk, la polyrythmie malienne, l'ethio-jazz et toutes les musiques qu'ils ont pu écouter lors de leur voyage. Un bijou résolument groove. 24 morceaux, tous aussi riches les uns que les autres. Comme le titre de l'album le dit si bien, on ne peut pas supporter la pression, ce disque met la forme. On est directement emballé par les breaks explosifs, les cuivres énergiques qui nous mettent en transe. C'est un voyage rythmé entre les années 70 et aujourd'hui, guidé par le groove des musiques traditionnelles et amplifiées, telles que le funk, l'afrobeat. Un mariage de cultures, de sonorités qui font de ce disque une des pépites de cette année 2016. Comme on l'entend si bien avec le tube, Gunga Yeto Fofa en featuring avec le trompettiste et chanteur congolais Thomas Tunga. Gayeto Fofa, une des 24 bombes de Can't Stand the Pressure de Character and the Malcoons, un des groupes les plus prolifiques d'afrobeat afrofunk en Europe provenant de Munich. Initié par Jan Wiesenfeld des Whitefield Brothers avec des membres de Poet of Rhythm, ce disque amène l'afrobeat, la soul et le funk dans un métissage et un voyage insoupçonné qui combine les styles des continents et le temps. Et ça lui va merveilleusement bien. On écoute encore un son de ce disque, on s'en lasse pas, Character and the Malcoons, Kingdom of DMT. C'était Carl Hector and the Malcoons, Kingdom of DMT, extrait de leur troisième album Can't Stand the Pressure, superbe projet du guitariste Jan Wissenfeld, sorti sur le prestigieux label Naugen, un disque transatlantique entre les époques et les pays au groove afrobeat, ethio jazz, soul funk.
Cinéma, concerts, ateliers, vernissage, il se passe beaucoup de choses dans le coin. On vous a sélectionné quelques petites sorties à ne pas manquer. Place à l'agenda.
La commune de Saint-Chef a le plaisir d'accueillir la 4e édition du Salon 100% Polar le samedi 4 mars 2017. Du 25 février au 5 mars 2017, le Cirque Régnier s'installe sur le parking du stade des Mûriers à Nivola-Vermel. La radio Couleur FM vous fait gagner vos places. Pour cela, vous appelez au 04 74 27 80 80.
Des lectures au tuyau, c'est l'idée originale proposée par les comédiens de la plateforme Locus Solus. Ça aura lieu le vendredi 10 mars à 11h30 et 13h30 devant l'école Linné dans le quartier de Champfleury de Bourgoin-Jallieu.
L'Académie de combat Ashigaru organise une journée spéciale à l'occasion de la Journée de la Femme, l'occasion de nous initier gratuitement au kickboxing ou encore au self-défense. Pour cela, rendez-vous stade Pierre Follet le samedi 11 mars.
Et puis dans la nuit du samedi 11 mars au dimanche 12 mars, c'est la nuit de la chouette partout en France. La Ligue pour la protection des oiseaux propose 4 animations à la journée ou à la soirée. En Isère, ces animations auront lieu à Murianette, Colombes, Le Sapet et Échirolles. L'écho local touche à sa fin. Retrouvez nos émissions également sur le site internet de Couleur FM ou en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h du matin et le dimanche à midi. C'était une émission présentée par Véronique Beaulieu,
Estelle Gély,
sans oublier William à la technique. On termine avec la citation du jour présentée par Véronique.
Cette semaine, plutôt que de vous présenter une citation, j'ai choisi de vous parler de la légende du colibri de Pierre Rabhi, paysan, écrivain et penseur français. Un feu dévastateur se déclenche sur la terre qui se propage à grande vitesse de village en village, de forêt en forêt. Les hommes courent, s'empressent, mais rapidement n'ont plus qu'une hâte, s'éloigner et se mettre à l'abri. Dans le ciel, un petit colibri s'affaire. Il vole, de feuille en feuille, très haut, à la recherche de la moindre goutte d'eau. Dès qu'il en saisit une, au creux d'une feuille ou d'une souche, il la met dans son bec et va la projeter sur le feu. Et le manège recommence. Le petit colibri s'affaire, toujours plus rapide et concentré sur sa tâche. Un homme qui l'aperçoit le rappelle à l'ordre. « Petit colibri, mais pourquoi t'affaires-tu ? Tu vois bien qu'à toi tout seul, tu n'éteindras pas le feu. » Et le petit colibri répond « Je fais ma part. » C'était la légende du colibri de Pierre Rabhi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle citation dans l'écho local sur Couleur FM.